Bonjour à tous, bonjour à toutes. Vous écoutez Around the World sur Radio Campus Paris 93.9.
À vous les studios, l'émission des ateliers radiophoniques de Radio Campus Paris.
Je suis Lucille Alex, votre présentatrice, et je vous emmène avec moi dans cette émission spéciale réalisée par les élèves de première 5 du lycée Hector Berlioz. Nous sommes en direct sur le 93.9 FM et nous allons parler d'un pays. Un pays très en vogue, longé d'un côté par la mer Jaune et de l'autre par la mer du Japon. Ce pays, vous l'avez peut-être deviné, c'est la Corée. Au programme aujourd'hui, pour en parler, nous écouterons Lila Boucheta, notre journaliste qui aura la chance d'interviewer Roman Soukotine, une taekwondoïste française. Nous accueillerons ensuite Héloïse Maquet, notre chroniqueuse, qui nous parlera du culte de la beauté très très important en Corée. Nous finirons cette émission avec Clara Jacob, notre super chroniqueuse, qui nous expliquera un petit peu l'univers de la K-pop et des K-dramas. C'est parti pour Around the World.
À vous les studios, les ateliers de Radio Campus Paris.
Et tout de suite, c'est l'heure de l'interview. Bienvenue à notre journaliste Lila Boucheta. Lila, vous recevez Roman Soukotine. Vous allez nous parler de taekwondo, sport de combat né en Corée que Roman pratique à haut niveau.
Merci Lucie. Bonjour à tous, bonjour Roman. À seulement 16 ans, vous vous entraînez à l'INSEP et êtes doublement vice-championne d'Europe, 9 fois championne de France et vous venez de rentrer d'une compète que vous avez remportée en Autriche. Que de titres ! Alors dites-nous, en quoi consiste votre sport ?
Bonjour Lila et merci beaucoup de m'accueillir, ça me fait très plaisir d'être avec vous. Alors le taekwondo, c'est un art martial coréen, sport national en Corée et qui a fait chemin jusqu'en France. Le taekwondo, c'est la force des poings et des pieds. Et ça se représente sous la forme de combats et d'enchaînements mêlant la forme traditionnelle de ce sport avec la modernité des tricks et des saltos par exemple adaptés avec des coups de pied.
Wow, intéressant. Comment avez-vous découvert ce sport ?
Eh bien j'ai commencé à 4 ans, comme beaucoup de gens, avec le club de ma ville. Et c'est tout simplement mes parents qui m'ont proposé lors d'une journée découverte justement à l'INSEP. J'ai tout de suite accroché et depuis je n'ai plus jamais arrêté.
Ok, et quel est votre prochain objectif ? Que visez-vous ?
Je vise une médaille pour les prochains championnats du monde à Chuncheon en Corée justement.
On vous le souhaite. J'ai justement entendu que vous aviez déjà fait des stages en Corée. Comment se sont passés ces entraînements par rapport à la France ?
Eh bien, on voit une nette différence entre les entraînements en Corée et en France. Pour eux, c'est un entraînement tous les jours et pas de vacances, mais 9 heures d'entraînement par jour, 6 jours sur 7. Et d'ailleurs, ils dorment directement dans la salle pour ne pas perdre de temps. Ça fait tout de suite bizarre, effectivement, mais ça marche vraiment.
En parlant des entraînements, est-ce qu'une différence culturelle t'a particulièrement marqué là-bas ?
Là-bas, la hiérarchie est extrêmement respectée et rien n'est remis en cause. En France, il y a aussi un profond respect des maîtres et des grades, mais là-bas, cette culture du respect des aînés, des grades, est poussée à son paroxysme. Après plusieurs stages là-bas, je n'ai jamais vu un seul élève contester une décision de son maître. Et ça, c'est vraiment impressionnant.
Eh bien, j'aimerais bien que ça soit pareil avec mon frère. Bon, Roman, on vous souhaite le meilleur pour la suite. Merci d'être venu et au revoir.
Merci Lila et merci à vous toutes.
Merci beaucoup. Et maintenant, notre chroniqueuse Héloïse Maquet s'installe au studio. Comment ça va, Hélo ?
Ça va très bien, et vous ?
Ça va, ça va. Aujourd'hui, tu viens nous parler de chirurgie esthétique, de culte de la beauté, de critères physiques surprenants et de pratiques esthétiques peu courantes.
Effectivement, vous ne trouvez pas qu'ils sont tous beaux, ces Coréens ? Eh bien, c'est parce qu'ils ont un véritable culte de la beauté et c'est un peu flippant. Le K-beauty est un phénomène qui conquérit peu à peu le monde. L'idéal d'une peau très blanche, parfaite et lumineuse, difficilement atteignable, appelle à la consommation de skincare spéciale coréenne. En France, on est connu pour manger les escargots, mais la nouvelle mode est de s'en étaler leur bave sur la peau. Le problème, les normes de beauté coréennes, qui sont une silhouette mince, une peau rebondie, une mâchoire en forme de V, un teint clair, des sourcils droits, une peau lisse et de grands yeux, autant pour les hommes que pour les femmes, sont des idéaux qui s'atteignent grâce à la chirurgie esthétique. Selon une étude, une femme coréenne sur 5 a subi de la chirurgie esthétique, contre, aussi surprenant que cela puisse paraître, une femme sur 20 seulement aux États-Unis, ce qui vaut à la Corée le surnom de « capitale mondiale de la chirurgie plastique ». D'ailleurs, la chirurgie en Corée du Sud est un cadeau de fin d'études courant. Talbac, ou plutôt le BTS, et je te parle pas de K-pop, chirurgie. En parlant de K-pop, les artistes sont également sélectionnés sur les critères de beauté. Ils ont intérêt à avoir eu une sacrée mention au bac. Mais bon, avec toute cette skincare, qu'en est-il de la healthcare ?
Merci beaucoup Héloïse. Merci à tous et à toutes. La suite arrive sur Around the World.
Wait, wait, what is that ? want you, need you, yeah, I need you to fill me up. 마시고 마셔봐도 상해졌지 않아. Got a feeling at all, yeah. You could be everything that, that I need. Taste so sweet. Every sip makes me want more, yeah. Lick and lick stand, cause you got it like that. Woo! Take a big bite, want another bite, yeah. 너의 모든 걸 나 원해, 원해, 원해. 너 말고 모두 뻔해, 뻔해, 뻔해. When you're in my arms, I hold you so tight, so tight. Can't let go, no, no, not tonight. 지금 당장 나가 시간 없잖아. 넌 내 거야, 이미 알고 있잖아. Cause I need you to need me. I'm meant to feel me so refreshing. My little soda pop. You're all I can think of. Every drop I drink of. You're my soda pop. My little soda pop. Pull me down, you're so hot. Pull me up, I won't stop. You're my soda pop. My little soda pop.
Wanna flip the top, 한 번 금액이 hit the spot. Every little drip and drop, fizz and pop. 소름 돋아, that's getting hot.
Just a sipping, man, it's dripping out. It's done, I need a second round. And pour a lot of, don't you stop. Till my soda pop fizzles out.
Ooh, 속에 그려왔던 너. 난 절대 놓칠 수 없어. 나 원했고, I waited so long for a taste of soda.
C'était la petite pause musicale. On vient d'écouter Soda Pop, un titre sorti du film K-pop Demon Hunter. L'émission Around the World continue sur Radio Campus Paris.
À vous les studios, on vous laisse les manettes, le temps d'une émission.
Et maintenant, on accueille Clara Jacob. Clara, tu vas nous parler un peu de nouveau style musical qui vient tout droit de Corée. Ce style musical, c'est la K-pop.
Effectivement, vous comprenez la hype de la K-pop ? Eh ben, moi non plus. Mais c'est ok, on va quand même en parler aujourd'hui. La K-pop, comme vous l'aurez compris, c'est de la musique coréenne, avec ses fameux groupes comme Blackpink, Cat Size ou encore les BTS. Et oui, pendant que les plus jeunes écoutent les BTS, d'autres passent leur BTS, et pourtant, ils ne sont pas fantasmés par la moitié de la planète. En effet, les Cat's Eyes ont dépassé le milliard d'écoutes sur Spotify un an après leur début, ce qui est impressionnant et dit le phénomène. La dernière en date pour nos amis fans de K-pop, c'est le film K-pop Demon Hunter, paru le 20 juin 2025. Ce film animé parle des membres d'un groupe de K-pop qui utilisent leurs identités secrètes afin de protéger des admirateurs de menaces surnaturelles. La chanson issue du film You Are My Soda Pop, qu'on a écouté précédemment, qui a beaucoup tourné, comme quoi il suffit de parler de coca pour percer. On est tous le soda pop de quelqu'un, et pour moi, You Are My Soda Pop, My Little Soda Pop. Bref, la K-pop, on aime ou on n'aime pas, mais ça reste une part très importante de la culture coréenne.
Et c'est la fin de notre émission Around the World. Merci à Clara et Héloïse, nos magnifiques chroniqueuses, à Lila, notre journaliste, et bien sûr à notre incroyable invité, Roman Soukotine. Merci à Nora et Evelyne pour la réalisation de cette émission. Bonne soirée à tous et à toutes. À la prochaine sur Radio Campus Paris.
Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur Passe D de Radio Campus dans le Paris 93 FM.
À vous les studios. L'émission des ateliers radiophoniques de Radio Campus Paris.
Je suis Anel Comat, présentateur de cette émission spéciale réalisée par les étudiants de première 5 du lycée Hector Berlioz de Vincennes. Et aujourd'hui, sur 93.3 FM, nous allons parler de la Coupe du Monde de 2026 qui se déroulera en Amérique du Nord. Au programme, pour en parler aujourd'hui, nous accueillons Marc Dagneau qui abordera le sujet de l'organisation de la Coupe du Monde et surtout au niveau de la sécurité pour la population. Nous verrons ensuite avec notre chroniqueur économique Alessandro Licandro qui nous parlera de ses rapports sur un coût d'un tel événement. Et nous finirons avec notre chroniqueur politique Martin Ricard qui abordera le contexte politique entre les pays hôtes de cette compétition.
À vous les studios, les ateliers de Radio Campus Paris.
Nous allons donc commencer, voici Passe D. Notre premier chroniqueur, Marc, est arrivé au studio. Comment vous allez, Marc ?
Ça va super, et vous ?
Ben, merci. Et aujourd'hui, donc, tu vas nous parler de la sécurité mise en place pour la Coupe du Monde.
Alors oui, donc on va notamment aborder donc, comment s'organisera la sécurité pendant la Coupe du Monde 2026, ou du moins selon ce que préparent les organisateurs et gouvernements des pays hôtes. D'après nos sources, le tournoi se déroulera dans 16 villes hôtes, réparties aux États-Unis, au Mexique ou encore au Canada. Et la FIFA demande que chacun soit prêt avec stades, infrastructures, zones fans, mais surtout des dispositifs de sûreté efficaces. Pour cela, les autorités locales travailleront en coordination étroite avec la FIFA, renforcement des contrôles de sécurité dans et autour des stades, gestion des foules, plan d'urgence paramédical, police et secours, adaptation des transports et des flux de supporters, y compris des mesures pour fluidifier les entrées, sorties et un dispositif sécurisé dans les villes et sur les lignes de métro ou transport public. Enfin, des efforts transnationaux sont prévus pour coordonner les menaces potentielles, notamment en matière de sûreté, ce qui inclut la collaboration des autorités des trois pays hôtes pour anticiper des risques plus larges.
Merci beaucoup Marc. Nous accueillons maintenant donc Alessandro, notre chroniqueur économique. Ça va aujourd'hui ?
Eh bien, ça va super.
Très bien. Et donc aujourd'hui, donc, tu vas nous parler de l'argent, donc du coût et du bénéfice qu'apporte cet événement mondial, j'ai envie de dire.
Voilà, c'est ça, en effet. Et je vais prendre plus précisément l'exemple du Canada. Donc, selon les estimations de la FIFA et des économistes, cela pourra rapporter au Canada près de 3,8 milliards de dollars. On peut aussi constater qu'il y a 24 100 emplois qui ont été créés pour cet événement. Et ce seront des emplois qui seront durables pour la population. C'est-à-dire qu'après, bah, il va falloir des gens pour pouvoir tout simplement entretenir les infrastructures et aussi la sécurité dans les stades. Au niveau des dépenses, on peut compter que cela va atteindre environ 1,9 milliard de dollars selon les recettes publiques canadiennes pour l'organisation, la construction et l'accueillement de cet événement. En ce qui concerne les autres membres, on peut noter une évolution similaire. Par exemple, pour le Mexique, qui va lui gagner 3 milliards de dollars grâce à l'événement, dû à l'arrivée d'une estimation de 5,5 millions de touristes. On peut donc conclure que la Coupe du Monde 2026 a un bilan économique assez positif, mais il faut quand même faire attention si jamais il y a des coûts imprévus qui viennent s'installer.
Merci beaucoup, Alessandro. On revient tout de suite après une pause musicale.
C'est que la fin, ouais. Comme Fetty Wap, je jette que l'œil gauche, ouais. Et le droit rougi par la queue, ébloui, aveuglé par la quiche. T'es même prêt à fumer ton ref, ouais. C'est soit la mosquée ou l'hôtel, ouais. Mais t'as choisi Iblis comme modèle, oh. Y'a ceux qui parlent mal l'hôtel. Nous on n'a pas changé depuis le début, ouais. Toujours foncé, je roule sur les zébras, ouais. Un gamos noir et blanc comme un zèbre, ouais. Grosse équipe, ouais. Sur tes côtes, ouais. Tu sais bien, ouais. Ce que ça évoque, ouais. Ils t'ont trouvé, ouais. T'ont troué, ouais. T'es mort.
Paradis ou l'enfer, Marbé ou Medine, Cogit ou Medit, tout choisi le gros fer. Vie comme des Jamal, lundi ou lundi, pas comme ces chitus, pas comme ces ML. Faut pas te donner la chance, ça existe pas. Pourquoi tu persistes, gros, si t'es décise, gros. Je les ai vus niquer leur vie, dans le casino d'Anguin.
On rit, on pleure, on vit, on meurt. On veut toute la ville comme le maire. Et
Je veux pas d'une pute comme ta mère. Je veux une vue, la vue sur la mer. Tu m'as tellement ouvert ton cœur que tu crois que je t'en ai mis dans ton verre. On fait du salade, ils sont salés. J'en plus des roses, ça fait des années.
Ton père, je connais mes frères. Tu veux nous boire, t'es pas dans la bonne demeure. On connaît les menteurs, on s'arrache gros moteur. Tous la mémoire comme les Wu-Tang. Je connais les farceuses, les meufs des Belize. C'est que les contourings en Belize. Je prends tous les papiers, déforestation. Pouvoir d'achat, je suis à Marbé ou Guéris. Ça fait presque 10 piges que je vends plus la zip vers la rue de la Roquette. Y'a du BNF à mort comme gratter 700 E sur un lanceur en quête. Y'a des répliques de fou, des calibres montés, des trucs artisanales qui finissent dans un canal.
Paradis ou l'enfer, Marbé ou Medjin, Cogit ou Medjit, ou choisis le gros fer. Vie comme des Jamal, lundi ou lundi, pas comme c'est Chitu, pas comme c'est Zemel. Faut pas te donner la chance, ça existe pas. Pourquoi tu persistes gros, si t'es décise gros. Je les ai vus niquer leur vie, dans le casino d'Anguin.
On rit, on pleure, on vit, on meurt. On veut toute la ville comme le maire. Et je veux pas d'une pute comme ta mère. Je veux une vie, la vie sur la mer. Tu m'as tellement ouvert ton cœur que tu crois que je t'en ai mis dans ton verre. On fait du salade, ils sont salés. J'en plus des roses, ça fait des années.
On rit, on pleure, on vit, on meurt. On veut toute la ville comme le maire. Et je veux pas d'une pute comme ta mère. Je veux une vie, la vie sur la mer. Tu m'as tellement ouvert ton cœur que tu crois que je t'en ai mis dans ton verre. On fait du salade, ils sont salés.
J'en plus des roses, ça fait des années.
C'était Jamal de Werenois et on continue donc sur Passe D avec Radio Campus Paris.
À vous les studios, on vous laisse les manettes, le temps d'une émission.
Et tout de suite donc nous passons à l'interview de notre journaliste en chef Théo Tourlet. Et donc aujourd'hui vous recevez Adam Hakoun, bonjour Adam.
Bonjour Anaël.
Et donc tous les deux vous allez nous parler du prix des billets de la Coupe du Monde, c'est ça?
Donc Adam, j'ai une question pour toi. Quelles sont les principales raisons avancées pour justifier l'augmentation du prix des billets pour la Coupe du Monde qui va se dérouler en 2026 donc?
Eh oui Théo, alors pourquoi les billets de la Coupe du Monde 2026 sont-ils plus chers? Eh bien plusieurs raisons sont avancées. D'abord l'organisation à trois pays, États-Unis, Canada et Mexique, ça coûte plus cher. Plus de stades, plus de déplacements, de sécurité ensuite. Ensuite, il faut rappeler que le tournoi passe de 32 à 48 équipes, donc davantage de matchs à gérer. À cela s'ajoute l'inflation, notamment en Amérique du Nord, et une stratégie de la FIFA qui clairement cherche à maximiser les revenus dans un marché où le public est habitué à payer plus cher pour les événements sportifs. Bref, pour les organisateurs, tout cela justifie la hausse, même si ce n'est pas au goût de tout le monde.
Comment cette hausse de tarifs pourrait-elle affecter l'accès des supporters au stade, notamment pour les familles ou les fans à budget limité?
Forcément, cette augmentation n'est pas sans conséquence. Pour beaucoup de supporters, surtout ceux qui ont un budget limité ou des familles qui doivent acheter plusieurs billets, l'accès au stade devient compliqué. On risque de voir un public plus fortuné, plus touristique et moins de fans historiques, ce qui met l'ambiance. C'est un vrai sujet parce que la Coupe du Monde, c'est aussi la ferveur populaire, les chants, l'énergie. Et si les prix excluent une partie des supporters, l'atmosphère pourrait en prendre un coup.
En quoi le prix des billets de la Coupe du Monde 2026 diffère-t-il de ceux des éditions précédentes et quelles tendances peut-on observer?
Par rapport aux dernières Coupes du Monde, on voit vraiment une montée des prix, surtout pour les matchs les plus attendus. Ouverture, demi-finale, finale. Les places premium explosent littéralement et l'écart se creuse entre les catégories. Ce n'est pas nouveau, depuis 2014, on voit la FIFA pousser de plus en plus vers un modèle qui met en avant les offres VIP et l'hospitalité. Mais en 2026, avec un marché nord-américain déjà habitué aux tarifs élevés, cette tendance s'amplifie.
Merci beaucoup Adam pour cette interview que tu viens de me donner.
Et merci à vous deux donc d'être venus. Tout de suite sur Passe D, nous recevons notre chroniqueur politique Martin. Bonjour Martin, comment allez-vous?
Bah ça va super, moi et vous?
Merci beaucoup de demander, je vais très bien. Aujourd'hui donc vous allez nous expliquer le contexte économique entre les trois hôtes de cette compétition.
Bah la Coupe du Monde 2026 déjà, c'est la première de l'histoire à être co-organisée par trois pays, le Canada, les États-Unis et le Mexique. Un projet sportif immense, mais aussi révélateur de leur relation politique. D'abord, il faut rappeler que ces trois pays sont liés par un partenariat économique majeur, l'Exalena, devenue la EUMC. Autrement dit, ce sont déjà des voisins qui commercent énormément, parfois s'agacent, mais ont besoin de les uns des autres. Justement, la relation Washington-Mexico City a souvent été mouvementée, surtout autour de l'immigration et de la sécurité à la frontière. La co-organisation du mondial a donc été perçue au moment de l'attribution comme un moyen symbolique de montrer que les deux pays pouvaient encore coopérer sur un projet positif, au-delà des tensions frontalières. Avec le Canada, les États-Unis entretiennent une relation beaucoup plus fluide, même si des désaccords existent régulièrement sur le commerce ou l'énergie. Le mondial n'a fait que renforcer cette coopération, Ottawa y voyant une occasion de mettre en avant son image internationale et diversifier sa diplomatie sportive. Enfin, entre le Canada et le Mexique, les tensions sont rares. Ce sont deux pays qui profitent de l'événement pour renforcer leurs liens touristiques et culturels. Le mondial devient pour eux une vitrine commune sur le continent. On n'attend plus que le coup d'envoi de cette partie pour voir comment ça va se dérouler.
Merci beaucoup Martin. C'est la fin de Passe D. Merci à tous nos chroniqueurs et aussi donc à Paul Zarouk pour la réalisation de cette émission. Je vous souhaite une bonne soirée à tous sur Radio Campus Paris.
Je suis Émilie Lapsy, votre présentatrice bien-aimée. Je vous emmène avec moi dans cette émission spéciale réalisée par les élèves de Hector Berrios de la classe de première 5. Nous sommes en direct sur le 93.9 FM et nous allons parler d'un aliment qui fait débat, le chocolat, plaisir coupable ou péché mignon. Au programme aujourd'hui, pour en parler, nous écouterons Alice Thirion, notre chroniqueuse habituelle qu'on adore, pour parler d'un témoignage venant d'un producteur de cacao. Nous accueillerons ensuite Apolline Grammaticopoulos, la fameuse intervieweuse, et son invitée Maëline Oberlin, qui nous éclaireront sur le secret du chocolat. Nous finirons cette émission en retrouvant Elias Klein, notre chroniqueur préféré, pour nous parler du fameux chocolat de Dubaï. C'est parti pour Chronique de tous les jours.
À vous les studios, les ateliers de Radio Campus Paris.
Et on commence directement avec Alice Thirion, notre chroniqueuse fétiche, qui s'installe en studio actuellement. Comment ça va, Alice ?
Très bien, ça va très bien.
Moi, ça va super, je suis très heureuse de te retrouver. Aujourd'hui, tu viens nous parler de Cassirica, qui a témoigné de sa vie en tant que producteur de fèves de cacao.
Oui, en effet. Donc, il faut savoir que depuis le 30 décembre 2025, le règlement européen interdit sur son territoire les produits issus de la déforestation, comme le cacao du Congo, par exemple. Cette réglementation touche donc directement des agriculteurs comme Cassirica, en République démocratique du Congo, confrontés à l'insécurité et à la pauvreté. J'ai eu l'occasion de le rencontrer. Il cultive le cacao dans l'est de la République démocratique du Congo, une région marquée par des violences et une grande insécurité. Il m'a confié que sa vie est très difficile. Il doit parfois abandonner ses champs pour se cacher des soldats et des groupes armés, car leurs combats rendent la culture du cacao incertaine et très dangereuse. Kasereka symbolise le combat quotidien des 240 000 agriculteurs congolais qui vivent du cacao, mais qui sont aujourd'hui menacés par des réglementations européennes strictes sur la déforestation zéro. Ces règles, destinées à protéger les forêts, risquent paradoxalement d'exclure les producteurs congolais du marché européen, mettant en péril leur survie économique et aggravant la pauvreté et les tensions sociales. Mes échanges avec lui m'ont montré que, dans le bassin du Congo, la déforestation est principalement causée par des petits exploitants agricoles comme Kasereka, qui pratiquent une agriculture extensive sur brûlis. Le cacao est un levier économique important, mais son expansion pousse à abattre des hectares de forêt, ce qui libère du CO2, diminue la biodiversité et aggrave le changement climatique. Kasereka et d'autres agriculteurs sont donc à la croisée des chemins. Ils aspirent à produire durablement, mais manquent souvent des moyens et d'un environnement stable pour le faire. Leur voix est essentielle dans la mise en place des solutions durables qui permettront à la fois de préserver les forêts du bassin du Congo et de garantir une vie digne aux communautés rurales. Ce témoignage humain éclaire la complexité de la problématique environnementale. Derrière chaque tablette de chocolat vendue en Europe, rappelant que derrière le produit sucré, il y a des vies, des défis et des espoirs fragiles.
Eh bien, c'est très intéressant, merci. C'est toujours un plaisir de t'écouter, Alice. On revient dans un instant, juste après une petite pause musicale.
It's the most wonderful time of the year. With the kids jingle belling and everyone telling you be of good cheer. It's the most wonderful time of the year. It's the happiest season of all. With those holiday greetings and gay happy meetings when friends come to call.
It's the happiest season of all. There'll be parties for hosting, marshmallows for toasting, and caroling out in the snow. There'll be scary ghost stories and tales of the glories of Christmases long, long ago. It's the most wonderful time of the year. There'll be much mistletoeing and hearts will be glowing when loved ones are near. It's the most wonderful time of the year. Scary ghost stories and tales of the glories of Christmases long, long ago. It's the most wonderful time of the year. There'll be much mistletoeing and hearts will be glowing when loved ones are near. It's the most wonderful time. Yes, the most wonderful time. Oh, the most wonderful time of the year.
On vient d'écouter It's the most wonderful time of the year de Andy Williams. Super musique de Noël, j'adore, ça nous a tous fait danser. L'émission chronique de tous les jours continue sur Radio Campus Paris.
À vous les studios, on vous laisse les manettes, le temps d'une émission.
Et tout de suite, c'est l'heure de l'interview. Bienvenue à notre journaliste Apolline Grammaticopoulos, tant attendue. Vous recevez Maëline Oberlin, notre nutritionniste, qui va nous éclairer aujourd'hui.
Bonjour à tous, c'est votre journaliste préférée, Apolline. À l'approche des fêtes, on consomme beaucoup de chocolat. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui Dr Maëline, nutritionniste spécialisée en santé alimentaire.
Bonjour Apolline, merci pour l'invitation et pour ne pas avoir mis des papillotes dans le studio, je me serais jetée dessus.
Toujours de bonne humeur. Nous allons découvrir tous les secrets de ce péché mignon. Alors, première question, presque philosophique, est-ce qu'on peut vraiment savourer du chocolat sans culpabiliser et est-ce que c'est aussi bon pour la santé qu'on le dit ?
Rassurez-vous, oui, on peut en manger sereinement tant qu'on le choisit bien. Le chocolat noir, au moins 70% de cacao, c'est un peu le super-héros de la tablette, bourré de flavonoïdes, antioxydants et de magnésium, de fer. Et surtout, il est boosté en sérotonine, l'hormone du bonheur. En résumé, un carré peut vous sauver d'une journée de cours de maths, par exemple.
Super nouvelle. Et en tant que gourmande de chocolat, je me demandais, côté quantité, qu'est-ce qu'on peut se permettre sans tomber dans l'excès ?
L'idéal, c'est 20 à 30 grammes par jour, soit 2 à 3 carrés, pas la tablette entière, même si elle nous guette très très fort. Une tablette de 100 grammes, c'est environ 500 calories, l'équivalent d'un déjeuner ou d'un cours de sport sauté. D'ailleurs, pour situer, en France, on est à 7 kg de chocolat par personne et par an. Les Suisses, eux, dépassent les 10 kg. Ils vivent littéralement dans une fondue permanente.
Je dois être suisse alors. D'ailleurs, existe-t-il un moment de la journée où c'est plus malin ou meilleur de manger son chocolat ?
Oui, en fin de repas, c'est le meilleur. Pas en mode je passe devant le placard et je me laisse surprendre. En fin de repas, ça évite les pics de glycémie et ça calme mieux. Et attention, le chocolat noir contient de la caféine et de la théobromine. Donc pour les personnes sensibles, on évite après 17 heures. Sinon, on se retrouve à minuit en train de ranger sa chambre par passion.
Oh là là, je savais pas qu'un carré de chocolat pouvait donner autant d'énergie. On entend aussi beaucoup parler d'un sujet un peu inquiétant, la présence de métaux lourds dans certains chocolats. Alors, un faux ou un tox ?
Oui, certaines études ont montré que certains chocolats noirs dépassent les seuils de plomb et de cadmium, mais rassurez-vous, à 20 grammes par jour, on ne devient pas une casserole. Les personnes qui doivent faire attention sont les enfants et les femmes enceintes, qui devraient plutôt aller vers du chocolat au lait. Moins de cacao, donc moins de métaux lourds, et plus de douceur, ce qui est très scientifique.
Ouf, vous me rassurez. Alors, pour finir, si on veut choisir un chocolat de bonne qualité et sans mauvaise surprise, on regarde quoi exactement ?
Lisez les étiquettes. Un bon chocolat noir doit contenir pâte de cacao, beurre de cacao, un peu de sucre, pas plus. Plus il y a de mots compliqués, plus votre chocolat essaie probablement de vous mentir. Et non, bio ne veut pas dire zéro cadmium. Ce sont surtout les sols d'origine qui comptent. La bonne stratégie, varier les marques et les origines. Et pendant les fêtes, choisissez la qualité. Mieux vaut savourer un excellent chocolat artisanal que dévorer le contenu du calendrier de l'Avent de votre petit frère.
Merci beaucoup, docteur Maëline, vous m'avez ouvert l'appétit. Donc en résumé, du chocolat, oui, surtout du noir, en petite quantité, plutôt après les repas et avec un œil sur les étiquettes. C'était Apolline sur Radio Campus. Très belle fête de fin d'année à tous et à toutes.
Eh bien, je vais peut-être réduire ma quantité de chocolat alors. Merci à toutes les deux, nous avons tous beaucoup appris. La suite arrive sur Chronique de tous les jours.
À vous les studios, les ateliers de Radio Campus Paris.
Pour finir cette émission avec joie, le sujet favori, j'en salive d'avance, le chocolat de Dubaï. Notre gourmand chroniqueur, Elias Klein, nous parle de cette hype.
Le chocolat de Dubaï, c'est la tendance qui a explosé ces dernières années. Originaire des Émirats Arabes Unis, il a été découvert grâce à une vidéo TikTok du chocolatier Fix, devenue virale avec plus de 120 millions de vues. Résultat, un engouement mondial inattendu. En France, le phénomène est tel que plus de 1,5 million de tablettes ont déjà été vendues. Oui, 1,5 million pour un chocolat à la pistache. Mais derrière ce succès fou se cache un effet secondaire surprenant. La pistache a été victime d'un véritable choc de demande positive. Les chocolats de Dubaï en utilisent en quantité pour le fourrage à la pistache et cette demande massive a transformé la pistache en produit le plus vendu du marché des noix. Conséquence logique, le prix s'est envolé. On est passé d'environ 14 à 15 euros le kilo à 19 voire 20 euros le kilo en seulement quelques mois. Une hausse impressionnante qui se ressent partout, de la confiserie aux pâtisseries. Le chocolat de Dubaï, c'est donc plus qu'une tendance virale. C'est un produit qui a littéralement fait bouger tout un marché, grâce à une seule vidéo.
Je comprends maintenant pourquoi les pistaches étaient si chères hier au marché. Merci beaucoup Elias. C'est la fin de notre émission Chronique de tous les jours. Merci à Apolline et Maëline, vous nous avez régalé. Alice qui nous a révolté avec son témoignage, puis Elias qui nous a ouvert l'appétit en cette fin d'après-midi. Merci à Sophie Loustalet pour cette magnifique réalisation. Bonne soirée à tous et à toutes sur Radio Campus Paris. À très vite, mes petits chocolats.
Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Saveur Verte sur Radio Campus Paris 93.9 FM.
À vous les studios, l'émission des ateliers radiophoniques de Radio Campus Paris.
Je suis Camille, votre présentatrice, et je vous amène avec moi dans cette émission spéciale réalisée par les élèves de première 5 au lycée Hector Berlioz de Vincennes. Nous sommes en direct sur le 93.9 FM et nous allons parler du végétarisme et du cyberharcèlement. Au programme, aujourd'hui, pour en parler, nous écouterons Noémie Dubois, qui donc nous parlera des dangers de la surconsommation de viande d'un point de vue médical. Nous accueillerons ensuite Lynn Duradi, qui nous présentera les sportifs de haut niveau avec un régime végétarien et vegan. Nous finirons cette émission avec Lana Macha, une influenceuse interviewée par Angèle Desmicro. Elles traiteront un sujet en commun qui est le végétarisme et déclineront sur le harcèlement. C'est parti pour Saveur Verte.
À vous les studios, les ateliers de Radio Campus Paris.
Notre chroniqueuse, Noémie Desbois, s'installe en studio. Aujourd'hui, tu viens nous parler de dangers de la surconsommation de viande et les bienfaits de se tourner vers une alimentation qui en contient moins. Dis-nous en plus.
Oui, bon, on va pas se mentir, manger de la viande, c'est devenu un sujet qui fâche. D'un côté, c'est inscrit dans nos habitudes, dans nos recettes familiales. De l'autre, les chiffres font un peu froid dans le dos. Pour produire un seul steak, il faut des milliers de litres d'eau, des hectares de forêts sont rasés pour nourrir le bétail, et l'élevage intensif représente à lui seul plus d'émissions que tous les avions réunis. Et puis, au-delà de la planète, il y a la santé. Les études le répètent, trop de viande, surtout rouge, augmente les risques de maladies cardiovasculaires et certains cancers. Pendant ce temps, les protéines végétales, lentilles, pois chiches, soja, proposent la même énergie, sans le cholestérol, sans la souffrance animale, sans l'impact carbone démesuré. Être végétarien, ce n'est pas se priver, c'est changer de point de vue, c'est dire « je peux me faire plaisir, mais en respectant ce qui m'entoure ». Une assiette peut être délicieuse, colorée, complète, sans le moindre morceau de viande. Finalement, manger moins d'animaux, c'est faire un choix simple, mais puissant, celui d'un futur plus respirable pour nous et pour la planète.
Merci Noémie Desbois pour ce passage très instructif. Nous continuons ensuite avec une autre chroniqueuse, Lynn Duradi, qui s'installe aussi en studio. Comment ça va ?
Bah ça va très bien.
Aujourd'hui, tu viens nous parler de différents sportifs qui ont adopté un régime végétarien et vegan.
Et oui, dans notre société, sportif ne rime pas avec végétarien. Et pourtant, de nombreux athlètes de haut niveau prouvent le contraire. Novak Djokovic, numéro 1 mondial au tennis, a un régime presque entièrement végétal dont il tire de nombreux bénéfices. En effet, il dit que ce mode d'alimentation lui a apporté une meilleure récupération, moins d'inflammation et plus d'énergie sur le court. Et ce n'est pas le seul. En Formule 1, Lewis Hamilton, 7 fois champion du monde, est entièrement vegan depuis 2017. Il affirme que ça améliore son endurance et sa concentration durant les courses. Même dans les sports d'ultra-endurance comme l'Ironman, on retrouve des sportifs 100% végétariens. Alors oui, on peut sprinter, soulever, courir, nager, tout en étant végétarien ou vegan. Ce n'est plus une exception, c'est une évolution.
Merci Lynn Duradi pour ce passage également. On revient dans un instant, juste après une petite pause musicale. On vient d'écouter Stranger de Prodérix et Mélite Bloom. L'émission Saveur Verte continue sur Radio Campus Paris.
À vous les studios, on vous laisse les manettes, le temps d'une émission.
Et tout de suite, c'est l'heure de l'interview. Bienvenue à notre journaliste Angèle Desmicros. Vous recevez Lana Matcha. Donc aujourd'hui, vous allez nous parler des dangers des réseaux sociaux et vous allez également nous partager donc votre lutte pour le végétarisme.
Merci Camille. En effet, je vais maintenant interviewer Lena Matcha, influenceuse végétarienne venue pour parler d'un sujet sérieux, l'harcèlement qu'elle a subi sur les réseaux sociaux. Malgré cette haine, vous avez atteint cette semaine les 1 million d'abonnés. Félicitations Lena.
Oh là 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 là, merci beaucoup de m'inviter. C'est très important pour moi. Effectivement, je suis vraiment contente d'avoir atteint les 1 million. Je rêvais déjà depuis que j'étais enfant.
Donc pour commencer, peux-tu nous expliquer un petit peu ton contenu sur les réseaux sociaux ?
Bien sûr. Tout d'abord, je partage des recettes végétariennes, mais aussi des alternatives simples aux recettes avec de la viande. Je partage aussi des bonnes adresses, par exemple de matcha.
Matcha.
Et aussi des infos sur la cause animale et l'environnement. Mon véritable objectif, c'est d'aider les gens à réduire leur consommation de viande, mais sans aucune pression. Je veux simplement éveiller les consciences.
Et pourtant, malgré ton contenu positif, tu reçois beaucoup de haine. Est-ce que tu pourrais nous dire comment et pourquoi ça a commencé ?
Ça a commencé lorsque j'ai vraiment expliqué pourquoi j'étais devenue végétarienne. Mais avant, ça allait. Dès que j'ai commencé à parler d'éthique et d'écologie, j'ai reçu des insultes, surtout de la part des masculinistes, qui ont commencé à faire des montages vidéo offensants, mais qui ont aussi fait des moqueries, des gens qui envoyaient des photos de viande pour me provoquer, comme si défendre les animaux était une attaque personnelle contre eux. Le pire qui m'est arrivé, c'est de recevoir un lapin mort devant chez moi. Des gens avaient retrouvé mon adresse. C'était vraiment traumatisant.
Ça doit être vraiment dur à vivre.
Oui, on m'a déjà dit « ignore », mais ce n'est pas si simple du tout. Quand tu te réveilles avec 30 messages qui te traitent de folle et qui jugent tes principes, ça touche en plein cœur. J'ai eu des périodes où je n'avais même plus envie de poster. Je me sentais fragilisée, jugée, même en dehors des réseaux, alors que j'avais simplement fait un choix personnel sans rien imposer à personne.
En dépit de tout ce harcèlement, tu continues de faire ton contenu et de rester forte. Qu'est-ce qui t'y aide ?
La grande majorité de ma commu est adorable. Et puis j'ai réalisé que si j'arrêtais, ça voulait dire que le harcèlement avait gagné. Je veux montrer qu'on peut être une femme visible, engagée et ne pas se laisser atteindre. Être végétarienne, ce n'est pas extrême. C'est juste un choix, un mode de vie. On n'a pas à être insulté pour ça. Je pourrais insulter aussi les personnes qui mangent de la viande, ce que je n'ai jamais fait et que je ne ferai jamais.
Aujourd'hui, tu sensibilises beaucoup sur le harcèlement. Quel message aimerais-tu passer aux auditeurs ?
Que ce ne sont jamais juste des messages. Le harcèlement blesse et laisse des traces. Il fait douter. On peut avoir des opinions différentes, évidemment, mais il y a une façon de parler. Et surtout, si vous voyez du harcèlement en ligne, ne restez pas silencieux. Le soutien peut vraiment sauver quelqu'un.
Et pour finir sur une touche positive, pourrais-tu nous partager ton adresse coup de cœur ?
Alors j'ai une grande affection pour un coffee shop dans le Marais qui propose des cookies et des matcha.
Matcha !
Le Moonlight Café.
Merci beaucoup Léna.
Petit rappel important, si vous êtes témoin ou victime de harcèlement, n'hésitez pas à appeler le 3018. C'est la fin de notre émission Saveur Verte. Merci à Noémie Desbois, Angèle Desmicros, Lana Matcha et Lynn Juradi. Mais merci également à Salomé Clapet pour la réalisation de cette émission. Bonne soirée à toutes et à tous sur Radio Campus Paris.
Bonjour à toutes et tous. Vous écoutez Focus Actuel sur Radio Campus Paris 93.9 FM.
À vous les studios, l'émission des ateliers radiophoniques de Radio Campus Paris.
Je suis Yanis, votre présentateur, et je vous emmène avec moi dans cette émission spéciale réalisée par les élèves de première 5 du lycée Hector Berlioz. Nous sommes en direct sur le 93.9 FM et nous allons vous parler de la fête que les plus petits comme les plus grands attendent. Évidemment, je parle de Noël. Ho ho ho! Au programme aujourd'hui, pour en parler, nous écouterons Marceau Boucher, notre chroniqueur, qui nous retracera l'origine de cette fête et du mythique personnage, le Père Noël. Nous accueillerons ensuite Paul Magnier, qui nous offrira une vision plus géopolitique de l'utilisation de Noël au XXe siècle. Nous finirons cette émission avec une interview par notre journaliste Noé Goldschmidt sur les jouets et leur marketing autour du genre accentué durant les fêtes.
À vous les studios, les ateliers de Radio Campus Paris.
C'est parti pour le focus actuel. Notre chroniqueur Marceau s'installe en studio. Comment ça va ?
Très bien, et vous ?
Aujourd'hui, tu viens nous parler de l'un des personnages les plus connus du monde et surtout celui qui fait sourire les enfants et fait mentir les parents. Bien entendu, je veux parler du Père Noël.
Nous connaissons tous le Père Noël, cet homme barbu monté sur des rennes volants qui fait le bonheur des enfants du monde entier une nuit par an. Mais peu de gens savent vraiment d'où il vient. Un petit retour dans le temps s'impose alors. Au IVe siècle, Saint Nicolas était un saint d'Asie mineure, dont la bonté et générosité, notamment envers les enfants, étaient connues de tous. Quelques siècles plus tard, après que ses reliques ont été transférées au Vatican, l'idée d'un homme distribuant des cadeaux aux enfants s'implante dans la tradition catholique européenne. Mais le Père Noël n'est pas encore un personnage fixe. Son apparence et les légendes qui l'entourent varient encore largement selon les cultures. Il faudra, en réalité, attendre qu'il arrive aux États-Unis, notamment via l'immigration néerlandaise, et plus particulièrement 1930, pour que Coca-Cola, géant de la grande distribution, reprenne cette figure à des fins publicitaires et crée ainsi le Père Noël, tel qu'on le connaît aujourd'hui, tout droit venu du pôle Nord, avec son grand menton rouge et sa hotte débordant de cadeaux.
Merci Marceau. Notre second chroniqueur, Paul, vient de nous rejoindre. J'espère que tu vas bien.
Ça va.
Juste avant, nous avons eu Marceau qui a retracé l'histoire du Père Noël. Et toi, tu viens nous parler des différentes utilisations de ce personnage et de la fête par les régimes autoritaires du 19e siècle, du 20e siècle.
Oui, aujourd'hui on va se pencher sur la façon dont de nombreux régimes totalitaires du XXe siècle ont utilisé une fête extrêmement connue, Noël, pour asseoir leur propagande sur la population. Pour commencer, en Allemagne nazie, dès 1933, Noël n'est pas supprimé mais réécrit. On enlève Jésus, on met des runes païennes, on transforme la fête chrétienne en rituel arien. Même les chants de Noël sont modifiés pour servir l'idéologie nazie. Du côté de l'Union soviétique, Staline le récupère dès 1922. Le sapin revient, mais est transformé en arbre du nouvel an, laïque, centré sur l'avenir du pays communiste. On ne fête plus la naissance du Christ, mais le futur du régime. Et pour finir, en Italie fasciste et en Espagne franquiste, Noël n'est pas modifié, il est instrumentalisé. Mussolini et Franco l'utilisent pour exalter la famille, l'ordre et la tradition.
On revient dans un instant, juste après une petite pause musicale.
Maximum. Dégagez le passage, on les restas. Toi tu parles trop, ça m'intéresse pas. Je me suis fait péter la main dans le sac, mais c'était un sac à 44K. Dans le recul, plus beaucoup d'espoir. L'histoire d'un blédard devenu roi.
Y'a le taureau sur le capot du bolide. Il me demande la photo, la police. Chaque bébé ce soir, je m'alcoolise. En direction d'un endroit paradisiaque. Je remplis des stats comme Céline Dion. Je fais le job, je me taille comme un papillon. T'as pas dit, faut respecter les anciens. Je prends pas, mais mon regard, il en dit long.
Ça fait des dingueries, ça part s'isoler. Ça fait des commandos en voiture volée. Après la tempête, le soleil va rayonner. Je t'ai prévenu, tu m'as rayonné.
Et la force blanche qui scintille. On est pas ma petite chérie, on n'a plus besoin des caries. J'ai sorti la petite chemise. Air Force blanche qui s'habille. On y va ma petite chérie, on n'a plus besoin des caries. J'ai sorti la petite chemise. Air Force qui s'habille. Costume d'Italie. On y va ma petite chérie, j'ai sorti la petite chemise.
Dégagez le passage, on les restas. Toi tu parles trop, ça m'intéresse pas. Je fais péter la main dans le sac, mais c'était un sac à 44K. Dans le recul, plus beaucoup d'espoir. L'histoire d'un blédard devenu roi. J'arrive en jet comme j'arrive à Pâques. Tout va bien, va leur dire qu'on veut pas se taper. À la base, je suis leader, mande à mascade. Donc je claque comme un monégasque à Madagascar. À la moindre virgule, on me condamne. On me guette, on me traque comme un contrat. Forcément, quand c'est moi, ça ne compte pas. Donc va leur dire qu'on arrive à la basta.
Ils te lâchent tous le cul quand tu es au summum. Je suis fait pour affronter les épreuves, je les surmonte. Je remonte la rivière à contre-courant comme le saumon. Je suis gentil, les gars, malheur qu'il est, je peux manger des sans pompes. Moi, c'est des bains à vie, y'a pas de vitant. C'est mes bons collègues et au final, nous évitons. Mon sang, je suis un bandit quand je tiens le guidon. On se montre pas, nous, on dit pas où nous vivons. C'était des bons au début, ils me voient comme leur ennemi. Gros, fais gaffe à toi si tu racontes des conneries. À deux temps, je fais pas du rap fini dans la maçonnerie. Ces bâtards, ils voient le bolide, ils me rayent la carrosserie.
Air Force blanche qui scintille. On est pas ma petite chérie. On a plus besoin des caries. J'ai sorti la petite chemise. Air Force blanche qui scintille. On y va ma petite chérie. On a plus besoin des caries. J'ai sorti la petite chemise. Air Force qui scintille. Costume d'Italie. On y va ma petite chérie. J'ai sorti la petite chemise.
Dégagez le passage, vois les restas. Toi tu parles trop, ça m'intéresse pas. Je me suis fait péter la main dans le sac. Mais c'était un sac à 44K. Dans le recul, plus beaucoup d'espoir. L'histoire d'un blédard devenu roi.
Dégagez le passage, vois les restas. Toi tu parles trop, ça m'intéresse pas. Je me suis fait péter la main dans le sac. Mais c'était un sac à 44K. Dans le recul, plus beaucoup d'espoir. L'histoire d'un blédard devenu roi.
On vient d'écouter Air Force Blanche de Maître Gims et en feat avec Jul.
À vous les studios, on vous laisse les manettes, le temps d'une émission.
L'émission Focus Actuel continue sur Radio Campus Paris. Et tout de suite, c'est l'heure de l'interview. Bienvenue à notre journaliste, Noé Goldschmidt. Et vous recevez Bérénice Isabelle, étudiante de sociologie, qui va bientôt soutenir une thèse sur les effets du genre dans la société. Et vient alors nous apporter son éclairage.
On entre en effet dans la période de l'Avent. Les rues commencent à s'illuminer le soir. Et qui n'est pas alors tenté de faire du lèche-vitrine devant les grands magasins? Mais surtout, qui n'est pas marqué par le fait que les jouets demeurent très genrés encore en 2025? On accueille donc Bérénice Isabelle pour lui poser quelques questions. La première étant, quelle est votre définition du genre ?
Donc, en sociologie, le genre désigne la manière dont une société est construite et organise les rôles, les comportements et les attentes associées au fait d'être perçu comme femme, homme ou appartenant à un autre genre. Autrement dit, ce n'est pas seulement une question de biologie, c'est un ensemble de normes sociales qui influencent nos parcours, nos possibilités et nos relations au quotidien.
Le genre dépend donc de l'éducation, mais pourrait-il aussi varier selon les sociétés ?
Eh bien oui, en effet, lors de ma thèse, je me suis penchée sur plusieurs sociétés en Océanie, notamment les Arapesh, où l'on voit qu'ils sont éduqués de façon où les hommes et les femmes sont tous deux très sensibles et ont un aspect plutôt maternel, ce qui n'est pas le cas d'autres sociétés, comme par exemple les Champoulis, où là, la femme est très virile et prend les décisions dans le couple, et l'homme, plus maternel et sensible, apporte une éducation aux enfants.
Donc on le constate, en France, la situation est bien différente. Le genre ne semble donc pas inné. Mais comment les parents peuvent alors influencer le genre de leurs enfants ? Noël, y est-il pour quelque chose ?
Eh bien, c'est vrai que dans l'éducation des familles françaises, les parents ont plus tendance à offrir des jeux genrés. Les garçons recevront surtout des petites voitures et les filles des poupées. Et les couleurs y sont aussi pour quelque chose, car dans les catalogues, on observe que les jouets pour les filles sont plutôt roses, attirant leur attention, et les jouets pour les garçons plutôt bleus.
Et est-ce que cela n'apparaît-il donc pas comme un petit peu anachronique dans l'époque dans laquelle nous vivons ?
Eh bien, c'est vrai qu'en 2025, on s'attend à une société plus ouverte, avec des jeux plus mixtes. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas des entreprises qui, eux, créent des jouets afin d'avoir du bénéfice. Et donc, en différenciant les deux genres, elles ont plus de bénéfices.
Donc Noël, on l'a compris, est donc une fête bien commerciale. Et le genre ne serait alors également aussi un outil au service de la surconsommation.
Eh bien oui, parce que par exemple, un petit frère qui apprend à faire du vélo ne voudra absolument pas prendre le vélo rose de sa grande sœur et sera donc obligé de demander à ses parents d'acheter un vélo bleu, car il pourrait subir des moqueries dans la cour de récréation sinon.
On l'a compris, c'est un processus assez inconscient. Mais quel est donc votre regard sur l'avenir ?
Eh bien, moi, je suis très optimiste et je pense qu'en exposant cette réalité, nous pouvons faire évoluer les mentalités. J'ai bon espoir de voir dans les années futures les catalogues et les vitrines devenir plus mixtes.
Eh bien, merci beaucoup à vous pour cet éclairage, Bérénice.
Merci
Isabelle.
À vous de m'avoir reçu.
Merci Bérénice, merci Noé. C'est la fin de notre émission Focus Actuel. Merci à nos chroniqueurs, Marceau et Paul, à notre journaliste Noé et à notre invité Bérénice Isabelle. Nous lui souhaitons bon courage pour sa thèse. Merci à vous, chers auditeurs, et merci à Nathan Barito pour la réalisation de cette émission. Bonne soirée à toutes et à tous sur Radio Campus Paris.